religions du monde, Geneviève Delru.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission de Pâques. Et nous retrouvons nos invités, François Gachou, auteur d'un essai philosophique sur la résurrection intitulé « Comment penser la résurrection ?», publié aux éditions du Cerf. Nous entendrons à nouveau Mathieu Richel, co-auteur de « Jésus pour les nuls », édité chez First Edition. Et puis nous quitterons le Jésus de la Palestine du 1er siècle pour rencontrer celui de notre époque avec le livre de Mgr Spong, « Jésus pour le 21e siècle », publié chez Cartala. Mes retours, François Gachou, avec vous sur la résurrection, l'événement fondateur du christianisme avec la célèbre et terrible phrase, malgré tout, de saint Paul : si le Christ n'est pas ressuscité, alors vide est notre foi. Une phrase qui pose problème car tous les chrétiens, François Gachou, ne croient pas en la résurrection.
En effet, et ça se comprend. Ça se comprend parce que les compagnons de Jésus n'y ont pas cru non plus, tout simplement. Et moi, je pense personnellement, là, je m'engage rien que moi, si les disciples n'ont pas voulu ou pu, au départ, y croire, ils n'ont pas pu inventer une chose à laquelle ils n'adhéraient pas. Par conséquent, il a dû se passer quelque chose de très profond et de très décisif pour qu'ils aient ensuite la force, le courage, l'énergie, l'élan pour fonder, sur la base de leur propre tradition juive, car n'oublions pas, c'était des juifs, ils reconnaissent en Jésus juif le ressuscité, ils fondent une église là-dessus, et depuis 20 siècles, ce souffle de vie traverse le monde.
François Gachou, la question de l'hallucination ne peut pas quand même ne pas être soulevée.
Oui, mais je pense que si on revient à la question fondamentale de l'attitude propre aux disciples qui spontanément n'y croient pas, l'hallucination me paraît pas une hypothèse fondée. N'est-ce pas? Dans la mesure où, justement, s'ils n'y adhéraient pas, ils pouvaient pas être disponibles pour fonder une religion sur un phénomène qu'ils ne comprenaient pas.
Pour vous, le doute est la preuve de la véracité.
En quelque sorte, mais il y a surtout ceci. Je dirais, il y a une intuition puissante de quelque chose qui les dépasse complètement. Il a donc fallu quelque chose de déterminant pour qu'ils puissent y adhérer. Alors, je dirais que si j'ai essayé de proposer un essai qui est une démarche philosophique, c'est précisément pour expliquer ce fantastique paradoxe entre la visibilité d'un corps qu'ils ne reconnaissent pas et l'invisibilité d'un souffle de vie qui fait que cette présence emporte l'adhésion et que finalement, à la Pentecôte, ils recevront ce souffle même du ressuscité pour fonder cette Église qui s'appellera le christianisme. N'oublions pas que le terme Christ et le terme Messie sont deux termes équivalents et que Christos en grec veut dire celui qui reçoit le souffle de Dieu. Autrement dit, on peut considérer Jésus comme quelqu'un habité du souffle de vie qui est le souffle même du Dieu créateur lorsqu'il crée l'homme. Et il y a deux termes hébreux pour désigner le souffle de vie, c'est nefesh, qui veut dire celui qui respire par la vertu du souffle, comme quand on dit, nous, il est vivant parce qu'il respire encore, et il meurt parce que le souffle de vie l'a quitté. Mais il y avait un autre terme plus décisif, qui apparaît plus souvent encore, surtout chez les prophètes de l'Ancien Testament, qui est le terme hébreu ruach. Ruach veut dire l'énergie d'un souffle de vie qui ne meurt, au fond, jamais. Parce que c'est le souffle même de celui qui existe de toute éternité, et ce souffle-là ne peut pas finir. Autrement dit, la question est de savoir comment concilier que ce Dieu créateur se fasse homme, devienne homme, et Jésus se révèle lui-même comme étant fils de son Père, et par conséquent, il y a ce mystère, on peut pas démontrer que Dieu doive s'incarner, on peut pas non plus démontrer qu'un événement historique comme la résurrection a dû exister, mais si ça a existé, quel sens peut-on lui donner? Raison pour laquelle je me suis tourné vers la phénoménologie. Phénoménologie est un terme qui a l'air très savant, mais finalement ça veut simplement dire que la phénoménologie, c'est l'étude de ce qui apparaît à notre conscience comme phénomène se manifestant devant nous dans l'histoire. Alors évidemment que le phénomène Jésus a existé, le phénomène historique du Christ. Et puis, la résurrection elle-même est un phénomène. N'oublions pas que Jésus, avant de ressusciter lui-même, avait ressuscité d'autres personnes qui ont fait d'ailleurs sa célébrité dans la Palestine de l'époque. Il a ressuscité Lazare, son ami, il a ressuscité le jeune homme de Naïm, et il a ressuscité la fille de Jaïr. Et il a été évidemment très connu par ce pouvoir de thaumaturge qu'il a eu. Donc résurrection veut dire phénomène. Maintenant, comment interpréter ce phénomène? C'est un phénomène de la manifestation de la vie qui a vaincu la mort. La vie est quelque chose de très paradoxal. D'un côté, il faut qu'il y ait des agencements physico-chimiques qui se mettent en place dans un corps avec des particules, des cellules, des organes, etc.
Pour que ça marche,
oui. Si ces éléments chimiques ne reçoivent pas un souffle qui les anime, il n'y a pas de vie, tout simplement. Donc, il faut essayer de voir que la vie est invisible en son souffle même, alors que le corps est visible. Au moment où nous parlons, nous sommes vivants, et donc nous pouvons nous comprendre, nous avons une vision, des sensations, des émotions, nous avons des idées, nous avons des pensées, etc. Mais nous ne les voyons pas.
Alors, précisément, François Gachot, pour revenir à la résurrection, c'est donc le souffle de vie qui revient.
Oui, alors là, il y a quelque chose qui nous dépasse du moment que le souffle de vie, par définition, est dans l'invisibilité d'un réel qui pourtant est là.
C'est la parole d'un croyant, François Gachot?
C'est à la fois la parole, c'est à la fois la parole d'un croyant qui adhère à ce message, mais c'est aussi la parole, disons, d'un philosophe qui essaye d'aller jusqu'où il peut pour expliquer ce paradoxe entre ce corps qui n'était plus un corps vivant parce qu'il est bien mort, et puis ce corps devient une chair ressuscitée. C'est pour ça que je préfère employer le mot chair pour dire que le souffle de vie est toujours encore dans ce corps. Il est redevenu vivant, mais vivant du souffle de Dieu, c'est-à-dire d'un souffle de vie dont on ne mourra plus. Sa résurrection à lui, elle est une fois pour toutes, elle est infinie, elle est éternelle, comme Dieu. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir, et le souffle de vie du ressuscité, on ne peut pas le voir non plus, mais on peut y croire. Alors, y croire, c'est faire une sorte de saut dans la confiance que ceci est vrai. Évidemment, ne pas y croire, et je respecte, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas croyants, mais il faut respecter aussi leur démarche, dans la mesure où ils disent « moi, je n'arrive pas à y croire ».
Alors, précisément, et ça sera notre conclusion, François Gachot, est-ce que cela rejoint ou non la question de l'immortalité, ce à quoi, effectivement, l'être humain a toujours rêvé?
Mais bien sûr que ça rejoint la question de l'immortalité de l'âme, sauf que dans la tradition, le corps mortel, l'âme immortelle, on a une séparation complète. L'âme survit après la mort, mais le corps n'est plus. Tandis que dans la question proposée par Jésus qui ressuscite, c'est le corps et l'âme ensemble qui entrent dans le mystère du souffle de vie éternel de Dieu. Et il n'y a pas de rupture entre le corps et l'âme. On retrouvera notre corps vivant à travers cette chair transfigurée. C'est pour ça que saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15, parle d'un corps transfiguré. Nous ne mourrons pas tous, dit-il, mais tous nous serons transformés, et il ajoute: ça, c'est notre espérance de chrétien.
Merci François Gachot. Donc je rappelle le titre de votre livre, Comment penser la résurrection, publié aux éditions du Cerf. Mathieu Richel, vous qui restez avec nous dans ce studio, qui avait donc, je le rappelle, publié Jésus-Christ pour les nuls. Et effectivement, il y a tout un passage dans ce livre publié chez First Edition sur, bien sûr, la résurrection. Que pensez-vous des propos de François Gachot?
Oui, je trouve ça très intéressant. Ça donne un éclairage philosophique qui rejoint, qui tente de comprendre ce que certains croient. Moi aussi d'ailleurs, mais on peut s'exprimer à la fois comme croyant, comme philosophe ou comme historien. Et il faut une certaine dose de foi pour croire en une explication de ce qui s'est passé. Je veux juste prendre un exemple de ce qui s'est passé à la résurrection. Madame Delrue, demain, vous démissionnez de RFI. Je le souhaite pas. Vous partez sur les rues, vous suivez une sorte de gourou qui fait toutes sortes de choses, qui prêche par-ci par-là, à Tours, à Poitiers, à Paris, à Marseille. Vous le suivez pendant 3 ans. Et puis, cet homme-là est condamné par les autorités officielles de votre pays. Il est rejeté par les autorités religieuses en lesquelles vous croyez depuis toujours. On vous laisse là, face à votre leader qui est mort, sous vos yeux. Un an après, on vous retrouve sur les routes de France, de Navarre, en train de proclamer à tout le monde que c'est Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Entre les deux, soit vous êtes devenu cinglé, soit il s'est passé quelque chose. Et ça s'est passé pour beaucoup de personnes. Ça, c'est un vrai mystère et qui donne à réfléchir quelles que soient vos convictions.
Oui, on peut aussi se dire que ces personnes étaient totalement déboussolées, désemparées.
Elles l'ont été de toute manière, mais je n'ai pas d'analogie historique pour un groupe de personnes aussi important, puisqu'après c'était des centaines et centaines, des milliers de personnes, très rapidement, qui auraient comme ça changé d'avis complètement. Comme l'a très bien dit mon collègue d'émission, François Gachou, il y a dans les récits bibliques des disciples qui sont déboussolés, qui n'y croient pas, et j'avais été frappé par un propos de l'exégète suisse, Daniel Margura, qui disait qu'il est trop court d'expliquer la foi en la résurrection par un phénomène d'hallucination collective ou bien d'auto-persuasion collective. Non, ça va plus loin. Il y a quelque chose de plus mystérieux derrière tout cela.
Merci, merci Mathieu Richel. Et je dirais presque à l'opposé de tout ce que l'on vient d'entendre à propos notamment de la résurrection, je vous propose une troisième approche de Jésus avec le livre « Jésus pour le XXIe siècle » écrit par Mgr John Shelby Spong et publié aux éditions Cartala dans la collection « Signes des temps ». Mgr Shelby Spong a été évêque pendant plus de 30 ans dans le New Jersey. Il appartient à l'église épiscopale, autrement dit l'église anglicane aux États-Unis. Et il a fait le constat personnel que le message de Jésus était devenu incompréhensible pour beaucoup de femmes et d'hommes de notre temps qui ne pouvaient plus admettre les mythes et les miracles qui entourent son histoire. Il propose donc une relecture radicale des évangiles dans ce livre publié en 2007 chez l'éditeur américain HarperCollins que les éditions Cartala ont choisi de traduire et de publier. On écoute Robert Agereau, président des éditions Cartala, qui explique la démarche de l'évêque américain.
John Shelby Spong, qui est un évêque anglican, a d'abord vécu lui-même le problème qu'il évoque dans le livre. Il était évêque dans le New Jersey. C'est un grand chrétien, c'est quelqu'un d'attaché à Jésus de Nazareth comme une figure exceptionnelle, une voix exceptionnelle, y compris par rapport au monde divin. Mais il s'est rendu compte très vite que les moyens traditionnels par lesquels on le présente, la liturgie, les dogmes, le catéchisme, disons, ne trouvaient pas de répondant chez de plus en plus de gens de l'époque, de notre époque dite moderne, qui n'adhéraient plus à ces dogmes, qui avaient du mal à comprendre et qui donc décrochaient de la pratique religieuse sans forcément perdre la mémoire de Jésus de Nazareth. Et il s'est dit, comment faire pour rendre ce Jésus de nouveau croyable ou attachant. Et c'est quelqu'un qui en même temps a une grande connaissance de ce qu'on appelle la méthode historico-critique qui depuis deux siècles, principalement depuis deux siècles, en Europe et maintenant dans la grande partie du monde, a essayé de distinguer dans la Bible, plus largement dans les évangiles qui nous concernent, autour de Jésus, ce qui était un certain noyau dur, une certaine réalité, et la manière dont on s'est exprimé à l'époque, d'abord au temps de Jésus et surtout après Jésus, quand on a commencé à écrire les évangiles, et ensuite dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, donc, ce travail historico-critique que personne ne peut remettre en cause actuellement, qui est un donné extraordinaire, permet justement d'approcher Jésus d'une autre manière que à travers la liturgie, à travers les dogmes, d'une manière qu'il appelle non-religieuse, en revenant à l'homme Jésus, quoi.
Revenir à l'homme Jésus, fournir un portrait de Jésus, débarrasser, écrivez-vous Robert Agereau dans l'introduction, des enveloppes surnaturalisantes qui, dès l'origine et par la suite, l'ont recouvert et déformé.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le gros enjeu de cette recherche de l'évêque Spong, c'est de dire comment, avec ce Jésus réel qui est caché derrière ou recouvert par toutes ces interprétations qui ont suivi, qu'est-ce que ça donne? Quel est ce Jésus réel? Et ce Jésus réel, il apparaît comme étant quelqu'un qui était d'abord un juif, dont on sait qu'il est né à Nazareth, qu'il a rencontré le prophète Jean-Baptiste à un moment donné, qu'il a eu des compagnons et qu'il est mort crucifié comme un bandit, comme un larron par le pouvoir religieux et le pouvoir politique de l'époque qui était Ponce Pilate, l'administrateur romain. On ne sait pas grand-chose de plus, sinon à travers l'expérience qu'on a reçue de ses disciples, que c'était une figure exceptionnelle et c'est peu dire considérable ou très considérable, comme on dit, d'un passant dans l'histoire humaine, qui en fait a provoqué une grande fracture avec le judaïsme dont il était l'origine, en mettant en discussion le temple, la loi, en brisant des tabous par rapport aux exclus, par rapport à des quantités d'exclus, par rapport à des quantités d'interdits, et en fait l'inventeur d'une voix, d'un message que peu de chefs religieux, ou si on peut les appeler comme ça, ou d'inventeurs de voix ont fait, c'est-à-dire d'une humanité fraternelle, sans frontières, sans ethnisme, sans séparation. Et qu'à travers cette philosophie, c'est Dieu que l'on peut retrouver. C'est-à-dire que lui s'identifie à Dieu et Dieu apparaît dans cette expérience. Donc c'est très loin d'un Dieu lointain ou d'un Dieu au-dessus, d'un Dieu démiurge, d'un Dieu puissant. C'est l'image d'un Dieu qui chemine avec l'humanité en travaillant ou en aspirant à sa plénitude.
Monseigneur Sprong va effectivement très loin. Il remet tout à fait en cause les miracles de Jésus tels qu'ils ont pu être relatés. Il remet en cause également la résurrection.
Oui. Il remet aussi en cause les récits de l'enfance que la plupart des exégètes actuellement acceptent. C'était des manières dont on a voulu valoriser Jésus en recourant à des schémas de l'Ancien Testament. Alors la résurrection, oui, puisque nous sommes à Pâques, la résurrection est liée à la Passion. Donc, elle est liée à la croix. La croix a été la crucifixion de Jésus a été le l'événement final de la vie de Jésus sur terre, puisqu'il a, ça on le sait, il a été crucifié à la fois par à la demande des grands prêtres juifs, du pouvoir juif, et avec l'accord de Ponce Pilate, quoi, le procureur romain. Pourquoi il est mort? Parce que il était devenu extrêmement gênant à cause de sa doctrine, à cause de son message, qui était la suprématie d'Israël, du peuple d'Israël, du Dieu d'Israël, et en même temps un message subversif par rapport à la fraternité, au-delà des ethnies, au-delà des frontières, au-delà des races, au-delà des genres, quoi. Il est mort pour ça. Il est mort parce que, justement, il a pris un engagement tel, il a été condamné pour cette doctrine qui veut que tous les hommes soient égaux. Ça a été pour les disciples qui l'ont accompagné, pour ses premiers compagnons, un drame terrible, on imagine. Mais un drame qui est difficile à reconstituer, puisque on l'a très vite interprété à travers la lecture de la Pâque en 3 jours, qui sortait du tombeau et qu'il ressuscitait comme étant un être nouveau. Alors ceci, il faut le dire très clairement, c'est ce que dit Sponck, c'est une parabole, c'est une figure spirituelle, ce n'est pas la réalité. Jésus est mort, Jésus est resté un homme qui est mort. Simplement, l'énergie qu'il a mis en route est exceptionnelle. Et ce qu'on appelle la résurrection, c'est que sa mort dans un rapport avec Dieu, puisque Sponck, il faut le dire aussi, est quelqu'un qui ne lâche pas la réalité de Dieu, même s'il répète sans arrêt que la doctrine traditionnelle ou la représentation traditionnelle ne passe plus auprès des gens d'aujourd'hui. C'est Dieu immanent, c'est Dieu dans l'homme, c'est des mots balbutiants, il faut le reconnaître encore aujourd'hui. Donc la résurrection, c'est cet espoir qui est placé au cœur de l'existence humaine depuis Jésus, que l'humanité peut s'améliorer, peut survivre, bien que cette humanité reste avec des failles, avec un aspect mortel. Mais on chemine vers une amélioration du monde et des hommes, quoi.
Oui. Oui, oui, ce que souligne Sponck, effectivement, elle décrit un événement, que l'événement, ça n'est pas tant la résurrection telle qu'elle est racontée dans les évangiles, mais ce que Jésus a produit en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est difficile à dire pour nous, parce que on est tous marqués par la célébration liturgique de Pâques, qui fait allusion à la Pâque juive, à la sortie d'Égypte. Après, on a présenté Jésus comme quelqu'un qui réparait les péchés, comme la fête du Yom Kippour chez les Juifs, où on plaçait les péchés d'Israël sur un bouc qu'on expédiait dans le désert. Tout ceci brouille un peu le message, quoi. Enfin, donne un aspect religieux qui est difficile à comprendre aujourd'hui. Donc la réalité, c'est que, et ça nous éloigne de la célébration religieuse de Pâques, tout en conservant ce formidable message que cet homme Jésus a créé un événement, oui, en se sacrifiant, en acceptant la mort, pour que le monde soit meilleur, que le monde soit plus juste, que les hommes soient frères, et c'est ça la résurrection.
Monseigneur Spong finalement propose une reformulation absolument radicale du christianisme. Bon, on sent qu'il est quand même à la pointe, ou certainement encore un peu isolé, mais comment l'institution effectivement peut-elle, si c'est la voie à suivre pour que le christianisme ne disparaisse pas, parce que c'est quand même sa thèse, hein, comment l'Église peut-elle suivre ?
Alors, c'est un redoutable problème parce que Spong est lui-même dans l'institution. Enfin, il a pris sa retraite en l'an 2000, mais c'est un évêque de l'église, une grande église, l'église anglicane. Alors, ça pose le problème, effectivement, de l'institution, mais il y a institution et institution. Le christianisme est un fleuve qui a plusieurs manières de se transmettre. Il y a les trois grandes églises orthodoxes, la réforme protestante et toutes ces variantes, et puis l'église catholique qui est le tronc du départ, quoi. Et déjà là, il y a des traditions diverses. Il faudrait que nos institutions acceptent ces traditions, acceptent ces lectures variées, plurielles, la réforme par exemple. Mais à l'intérieur même de l'église catholique, qui est la plus grande de ces églises, il y a des traditions variées. Spong représente une des traditions qu'on peut comparer à la branche libérale du protestantisme, c'est-à-dire qui fait plus que cohabiter, qui fait se rencontrer la modernité et la recherche historico-critique pour mieux comprendre le phénomène Jésus de Nazareth. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les institutions ont eu leur utilité, ils l'ont toujours, en transmettant Jésus. Même nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons été initiés à ce phénomène Jésus par le catéchisme, sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne de moins en moins parce que nous sommes au début du 21e siècle, au siècle de l'information, où les sciences humaines se sont répandues, où nous sommes dans une conception de l'univers qui est bien après Copernic et Galilée, et que beaucoup de gens donc ne peuvent pas entrer dans les anciennes catégories et cherchent, sont en attente d'une nouvelle présentation de Jésus. Donc le problème des institutions, c'est qu'elles transmettent le message, mais elles risquent toujours d'en faire un otage. Et donc, peut-être que le pape François, aujourd'hui, donne des signes d'ouverture, mais il faut aller bien plus loin et redonner la recherche aux communautés chrétiennes, ce qu'on appelle les églises locales, dans des contextes très variés, culturellement, socialement, philosophiquement, de façon à ce qu'on puisse enrichir cette recherche autour de Jésus. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être redonner du goût à ce Jésus, le retransmettre aux jeunes, le retransmettre à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes parents qui ne savent plus comment le transmettre, sans parler des agnostiques, mais en présentant Jésus non pas comme un dieu, non pas comme un messie au-dessus des autres, c'est comme un être exceptionnel qui, peut-être à la différence des grands sages de l'Asie, ouvre cette voie de l'humanité, du don, du sens de l'autre, de manière exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'on peut réintéresser Jésus à un tas de gens, quoi.
Mais ça fait effectivement peur à l'institution que cet humanisme chrétien, en quelque sorte, ce christianisme sans religion, comme le citait Dietrich Bonhoeffer.
Oui, mais ce christianisme n'exclut pas cependant la transcendance, ce qu'on peut appeler Dieu, la transcendance immanente, c'est-à-dire le mystère, c'est-à-dire le sacré, sans parler de l'émotion religieuse, mais qui n'est pas déterminante dans la compréhension de Jésus, qui encore une fois est un homme qu'on a assimilé à un proche de Dieu, à tel point que Dieu était en lui, disent même les évangiles ou les apôtres, les actes des apôtres, parce que il a ouvert une voie qui est une voie pour l'humanité d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain pour nous.
Si donc il n'est plus question de la Trinité, s'il n'est plus question des miracles, s'il n'est plus question de la virginité de la Vierge Marie, enfin bon, tout ce que le catéchisme a pu nous enseigner, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va célébrer ?
Alors, ce qui reste, ce qu'on appelle le noyau dur, c'est justement centré autour de cet être exceptionnel qu'a été Jésus. Si on prend par exemple dans un lycée ou bien dans une réunion avec des gens qui ne croient plus ou qui disent ne plus croire, la méthode serait peut-être de commencer par l'histoire, de raconter qui est ce Jésus en s'appuyant sur la méthode historico-critique. Parce que malheureusement, les exégètes ne font pas suffisamment. Les exégètes savent depuis très longtemps que les récits de l'enfance sont des créations mythiques ou des créations interprétatives dans les premières décennies de la synagogue juive où se réunissait l'Église pour valoriser Jésus. Donc on sait très peu de choses, mais il reste son message. Une fois qu'on a fait le tri entre les manières de s'exprimer, c'est une formidable philosophie de la vie concrète, donc dans le sens de l'autre, dans le sens des interdits, et il y a d'abroger les interdits, et également un certain sens de la transcendance, parce qu'il y a constamment quand même ce rappel à Dieu, enfin toujours à des mots difficiles à utiliser aujourd'hui, qui fait que l'homme n'est pas uniquement un cheminement banal, quoi, c'est qu'il y a, du mystère dans sa vie. Mais en tout cas, tout ce qui est la transmission par la liturgie traditionnelle, par les dogmes hérités de l'époque grecque, par rapport à ce qui a été traduit dans les catéchismes, il y a un très grand nettoyage à faire, faut le dire, quoi. C'est un chantier considérable qui nous attend, même durant le fameux 20e siècle duquel nous sortons, ce qu'on appelait la question du modernisme au début du siècle, c'est-à-dire faire concilier la foi et la raison moderne a été résolue à peine à 30%. Donc on se retrouve toujours devant les mêmes problèmes. Il y a un chemin à trouver où beaucoup de choses vont être chamboulées, beaucoup de choses vont s'écrouler aussi. Vont s'écrouler parce que les gens vont quitter les églises ou bien se réfugier dans des formes émotionnelles comme le pentecôtisme. Mais tout est à reconstruire à ce côté-là. Et plus on tardera, je dirais pas plus ce sera difficile, mais plus on perdra du temps.
Robert Agenot, président des éditions Cartala, à propos du livre de Mgr Spong, Jésus pour le 21e siècle. C'est la fin de Religion du Monde, consacrée à la fête de Pâques. Religion du Monde présentée par Geneviève Delru et la mise en onde est signée Ute Eckerfeld. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Vous pouvez réécouter Religion du Monde sur www.rfi.fr.